Parmi les tragédies de notre monde, quoi de plus pénible à regarder que les guerres et leurs cortèges d'injustice, le massacre d'innocents, hommes, femmes et enfants? Car la faucheuse ne fait pas de quartier et ne distingue pas entre un vieux méchant loup et le bébé qui vient de naître. Et puis il y a les millions de réfugiés qui ont survécu et qui ensuite se languissent à n'en plus finir dans des campements provisoires qui sont plutôt des camps de la mort parce qu'ils n'ont plus d'espoir pour les faire vivre. Le prophète Ézéchiel avait fait partie d'un convoi de déportés de 10 000 personnes qui représentait la crème du royaume de Juda. Elles furent emmenées en Babylonie par Nabuchodonosor, qui à cette époque était l'homme fort du Proche et Moyen-Orient. La plupart des exilés israélites étaient dans le sud du pays, au bord du fleuve Kébar, qui était un canal qui reliait Babylone à l'Euphrate. Ils habitaient dans une région très fertile et cultivaient la terre. Jérusalem n'ayant pas encore été détruite, des faux prophètes opéraient dans la ville sainte, sillonnaient le pays de Juda et les bords du Kébar en proclamant haut et fort à qui voulait les entendre que les exilés rentreraient bientôt au pays. Mais Jérémie à Jérusalem et Ézéchiel en Babylonie jouaient les troubles faits car ils prédisaient exactement le contraire et annonçaient plutôt une grande catastrophe, la fin du royaume de Juda, qui serait suivie d'une captivité des Israélites rescapés pendant 70 ans. Peu d'entre eux étaient disposés à entendre des prédictions aussi funestes et dans leur grande majorité, ils préféraient de loin écouter les faux prophètes parce que le message leur caressait les oreilles. Cette attitude, somme toute très humaine, se retrouve aujourd'hui partout. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont pécheurs et que leur bonne moralité et leur rite ne changent rien au fait que s'ils n'acceptent pas Jésus comme sauveur, ils seront jugés. Ézéchiel va donner deux messages l'un à la suite de l'autre. Le premier nous est rapporté dans le chapitre 6 et le deuxième dans le chapitre suivant. Tous deux commencent par « L'Éternel m'adressa la parole ». Le prophète ne disait pas ce qu'il pensait, ce qu'il espérait ou ce qu'il voudrait voir arriver, mais ce que Dieu lui ordonnait d'annoncer et c'était fort désagréable à entendre. Ces deux messages se terminent exactement de la même manière par « Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel ». Comme le peuple d'Israël avait refusé de se soumettre et continuait dans sa rébellion, Dieu allait lui parler avec des châtiments cinglants. Tout le monde a entendu dire que Dieu est amour, mais peu de gens comprennent ce que cela signifie parce qu'ils ne veulent pas entendre que l'Éternel est aussi le Dieu trois fois saint et que la sainteté est son attribut moral par excellence. En conséquence, Dieu ne peut pas accepter la moindre entorse à sa sainteté, que ce soit des péchés mortels, véniels ou mignons. Ils lui font tous horreur. Il s'ensuit que dans sa justice implacable, il doit punir tous ceux qui sont coupables de transgression, c'est-à-dire vous et moi, car nous faisons tous partie du club de ceux qui commettent des péchés. Une fois qu'on comprend et accepte cette vérité élémentaire, alors l'amour de Dieu entre en jeu. En effet, parce que Dieu aime sa créature, il a envoyé Jésus dans le monde afin qu'il prenne sur lui nos fautes et les expie. Mais pour bénéficier de ce sacrifice, il est nécessaire de prendre à l'égard du Christ une décision personnelle. Après avoir entendu le verdict de ma condamnation et reconnu qu'il était juste, il me faut accepter Jésus comme mon sauveur. Si je ne le fais pas, il ne reste qu'une seule alternative et c'est le jugement. Ce principe s'applique à tous les êtres humains, qu'ils croient en Dieu ou pas. Les tragédies de ce monde sont souvent utilisées comme une preuve que Dieu n'existe pas ou qu'il se désintéresse de nous ou que son amour est déficient. Beaucoup de Juifs ont rejeté l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, parce que 6 millions d'entre eux ont péri dans les camps d'extermination nazis. C'est dur à dire, mais ce qui leur est arrivé, et c'était plus horrible que ce que des mots peuvent décrire, était prophétisé dans les malédictions des livres de la loi de Moïse. Ce n'est pas tout. Quand le gouverneur Ponce Pilate s'est lavé les mains devant la foule, il a dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » En disant cela, les Juifs venaient de signer leur arrêt de mort, pour ainsi dire. Ils avaient enclenché toute une série de jugements contre eux, dont celui conçu par Hitler. Les prophètes Jérémie et Ézéchiel disaient tous deux que la destruction du royaume de Juda, de Jérusalem et du Temple était la responsabilité de l'Éternel et Nabuchodonosor n'était que son instrument. Dieu est trois fois saint et ses châtiments sont terribles. Un des auteurs du Nouveau Testament écrit « Oh, chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant !» Je commence maintenant à lire le chapitre 6 d'Ézéchiel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, tourne-toi en direction des montagnes d'Israël et prophétise contre elles en disant « Montagne d'Israël !» Écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel, car voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, aux monts et aux collines, aux vallées et aux ravins. Je vais faire venir le glaive contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Versets 1 à 3. Dans les Écritures, la montagne est souvent un symbole pour un siège de gouvernement, mais ici, le mot est utilisé dans son sens littéral. Il s'agit donc des parties élevées du paysage de Juda, et Ézéchiel les personnifie. En effet, quand Dieu parle aux hommes et qu'ils font la sourde oreille, Dieu s'adresse souvent aux objets inanimés. Ici, il s'en prend aux montagnes parce qu'à leur sommet se trouvaient les hauts lieux, c'est-à-dire des autels dédiés aux idoles où les Israélites venaient pour leur rendre un culte. Tout comme sur les monts et collines, dans les vallées et ravins, à l'ombre des bois sacrés, le peuple se livrait à l'idolâtrie et à tous les vices les plus grotesques qui souvent l'accompagnaient. Il va sans dire que l'Éternel était particulièrement irrité par une telle pratique de la part des Israélites, son peuple. Depuis toujours, l'idolâtrie constituait le péché par excellence, dont les Israélites se rendaient coupables. Ce qui est un comble, puisque l'Éternel les avait choisis justement afin qu'ils soient son peuple et n'adorent que lui. C'est fou et difficile à comprendre, mais le grand roi Salomon lui-même, qui avait été immensément béni par l'Éternel, a aussi bâti des autels consacrés à de fausses divinités. Cet acte constituait rien de moins qu'une gifle à Dieu. Je continue le texte. « Vos autels seront dévastés, vos encensoirs seront réduits en pièces, et je ferai tomber vos blessés devant vos idoles. J'étendrai les cadavres des Israélites devant les statues de vos dieux, et je disperserai vos os autour de vos autels. » Versets 4 et 5. Les Israélites massacrés par les Babyloniens seront privés de sépultures, ce qui à cette époque constituait un déshonneur particulièrement grave. Ce châtiment prouvera que d'une part, les idoles sont inutiles et incapables de protéger leurs adorateurs, et d'autre part, l'Éternel seul est Dieu. Et comme sa sainteté exige que justice soit faite, tôt ou tard, le châtiment tombe et il est rude. Quand Ézéchiel a vu sa gloire, elle se déplaçait comme bon lui semblait dans un tourbillon de feu. Cette vision signifie que l'Éternel accomplit tous ses objectifs et consume tous ceux qui voudraient s'opposer à lui. Dieu n'est pas, comme les humoristes aiment à le décrire dans leurs dessins, un grand-père indulgent à la barbe blanche qui se promène sur un nuage blanc ou rose et qui est toujours prêt à pardonner n'importe quoi. Il est au contraire saint et juste dans sa manière d'agir et dans toutes ses voies. Il est enveloppé de feu. Il est éloigné de nous et il jugera tous les hommes. Cette perspective est peut-être une pilule amère et dure à avaler, mais il vaut mieux regarder la vérité en face que de jouer à la politique de l'autruche. On est très loin du petit Jésus dans sa crèche, mais c'est comme ça. Il n'est pas resté à Bethléem, dans ses langes, il a grandi et est devenu homme. Il est descendu sur terre pour nous faire connaître son Père, afin qu'il devienne aussi notre Père. Il a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Je continue le texte. « Sur toute l'étendue de votre territoire, les villes seront dévastées et les hauts lieux détruits afin que vos autels soient démolis, que vos idoles soient brisées et anéanties et que vos encensoirs soient cassés et qu'il ne reste rien de tout ce que vous avez fait. Au milieu de vous, des blessés tomberont, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Versets 6 et 7. Comme j'ai déjà dit, ce refrain « Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel » revient souvent, plus de 70 fois dans le livre, et il est chargé de menaces. Ceux qui échapperont au massacre seront bien obligés d'admettre que leur divinité était fausse et que les prophètes qui avaient parlé au nom de l'Éternel avaient dit vrai. Si les villes de Juda allaient être réduites en cendres, c'était principalement pour détruire les idoles et leurs autels. Je continue. « Mais je vous laisserai un reste d'entre vous, des rescapés du glaive qui survivront parmi les nations. Ils seront dispersés dans différents pays et parmi les nations où ils seront captifs, vos rescapés se souviendront de moi, eux dont j'aurai brisé le cœur infidèle qui s'est détourné de moi et les yeux adultères qui se sont tournés vers leurs idoles. » Ils se prendront alors eux-mêmes en dégoût pour le mal qu'ils ont fait et pour toutes leurs abominations. Versets 8 et 9. L'annonce d'un reste fidèle qui sera préservé se trouve constamment dans les écrits des prophètes, surtout dans Ésaïe et Jérémie. Éventuellement, les Israélites se souviendront de l'Éternel, leur Dieu. Ceux qui revinrent de la captivité babylonienne n'étaient pas seulement motivés par un sentiment patriotique, mais ils soupiraient après le Dieu de leurs ancêtres et voulaient renouer le culte de l'Éternel. En effet, quand ils furent déportés, c'était un peuple voué à l'idolâtrie, ce que les Écritures appellent aussi un adultère à l'égard de Dieu ou une prostitution. Mais l'exil les a en grande partie guéris de cette funeste tendance spirituelle. Après l'enlèvement de la véritable Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les vrais croyants qui appartiennent à Jésus-Christ, les Églises officielles, qui forment la chrétienté, continueront à fonctionner comme si de rien n'était. Dans le livre de l'Apocalypse, cet ensemble religieux apostat est appelé la grande prostituée. Ici donc, Ézéchiel évoque la transformation intérieure qui s'opérera dans le cœur des Israélites. Seulement, il sera de courte durée, et il n'y a qu'à lire les évangiles pour en être convaincu. En effet, d'idolâtres qu'ils étaient, ils devinrent hyper-légalistes, ce qui ne vaut guère mieux. Aujourd'hui, un certain nombre de Juifs a placé sa foi en Jésus-Christ. Mais, d'une manière générale, la grande majorité d'entre eux, qu'ils soient ultra-orthodoxes ou athées, ont rejeté le Dieu de leurs ancêtres. Pour cette raison, d'autres jugements divins sont dans les cartons, dont celui de la grande tribulation qui aura lieu à la fin des temps. Je continue le texte. « Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, que ce n'est pas en vain que j'ai parlé de leur faire ce mal. Hélas, hélas !» Verset 10. C'est la troisième fois déjà que nous avons ce refrain menaçant « Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel ». Il est menaçant parce que les Israélites qui survivront à l'exil se mordront les lèvres parce qu'ils devront admettre que tous les jugements annoncés par les prophètes se sont réalisés comme prédits à la lettre. Je continue. « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Va !» Frappe dans ta main, tape du pied et dis « Hélas, hélas, pour tout le mal abominable commis par les gens d'Israël qui sont près de tomber, dévorés par l'épée, la famine et la peste. » Verset 11. Frapper des mains et battre du pied étaient des signes de regret et de surprise. Le prophète exprime ici le sentiment de douleur et d'étonnement que Dieu éprouve à la vue de la méchanceté opiniâtre de son peuple qui persiste à mal faire malgré les avertissements qu'il ne cesse de lui donner. Je continue. « Celui qui sera loin périra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée, celui qui restera et sera assiégé mourra par la famine, et toute ma colère s'assouvira sur eux. » Verset 12. Les habitants de Jérusalem tombent sous l'épée, tandis que ceux qui se réfugient dans les lieux reculés du pays meurent de la peste, et ceux qui, par miracle, échappent au massacre et à la maladie, périssent de famine. Je finis le chapitre 6. « Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, quand leurs morts tomberont au beau milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, jusque sur les sommets des montagnes, sous tous les arbres verts et sous tout chêne verdoyant, ces endroits où ils offrent un parfum apaisant à toutes leurs idoles. Je brandirai ma main contre eux, je dévasterai leur pays pour en faire une solitude, du désert à Ribla, partout où ils habitent, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Versets 13 et 14. Le désert dont il est question est celui du Négev dans le sud d'Israël. Ribla est situé au nord de Damas sur le fleuve Oronte. Du désert à Ribla signifie donc dans toute la Palestine du sud au nord. Ce passage contient deux fois la menace habituelle. La reconnaissance que ses jugements sont l'œuvre de l'Éternel, plus une troisième « je brandirai ma main contre eux », une expression qui elle aussi reviendra à plusieurs reprises dans la suite. Le châtiment du royaume de Juda est non seulement résolu, mais il sera cinglant. Dans les tragédies qui frappent notre monde, nous n'avons pas d'autre choix que d'y voir la main de Dieu. Les catastrophes n'ont pas généralement pour but de punir les personnes qui les subissent de plein fouet, car elles sont le plus souvent innocentes, du moins en termes humains. Un tremblement de terre, un tsunami, une inondation meurtrière sont des tragédies qui sont dirigées contre l'humanité tout entière et quelquefois peut-être plus particulièrement contre ceux qui sont directement affectés par la tragédie, mais pas pour les punir. Ce sont plutôt comme des coups de semonce divins dont l'objectif est de sortir les gens de leur torpeur morale et de leur apathie spirituelle, afin de leur rappeler que leurs idoles ne les protègent pas, qu'une épée de Damoclès pèse sur leur tête, que le jugement de Dieu est réel et qu'ils ont besoin d'un refuge, d'un sauveur. Je sais bien que cette interprétation des faits tragiques qui surviennent d'un bout à l'autre de la planète est sujette à controverse et ne me fera pas que des amis, mais au vu de la souveraineté absolue du Dieu créateur et de son désir de voir tous les êtres humains sauvés, c'est la seule qui est rationnelle. De plus, elle est conforme à l'enseignement des Écritures. Dans l'évangile de Luc, des gens viennent informer Jésus que Ponce Pilate a fait massacrer des Juifs et on apprend aussi qu'une tour s'est effondrée et a tué 18 personnes. Les disciples voulaient comprendre pourquoi ces malheurs étaient arrivés. Mais Jésus n'a pas répondu à leur attente, à leur interrogation. Il n'a pas expliqué pourquoi ces pauvres gens avaient subi ce sort injuste. Par contre, il a utilisé cet incident tragique pour lancer un avertissement en rappelant que d'une manière ou d'une autre, tous mourraient et qu'après vient le jugement et qu'il est donc impératif pour l'homme de se repentir pendant qu'il est encore temps. Nous arrivons au chapitre 7 qui annonce en 5 strophes la fin du royaume de Juda. Je commence à le lire. « L'Éternel m'adressa la parole et me dit, « Ô toi, fils d'homme, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, au pays d'Israël. La fin est arrivée. Aux quatre extrémités du pays, c'est la fin. » Versets 1 et 2. Comme précédemment les montagnes, le pays de Juda, qui va être jugé, est personnifié. Dans les Écritures, la terre d'Israël et ses habitants forment un tout et fonctionnent ensemble. Cette prophétie annonce la destruction finale du royaume de Juda, ce qui inclut Jérusalem et le temple. Je continue. « Oui, maintenant, c'en est fini de toi, car je vais déchaîner contre toi ma colère et je vais te juger pour ta conduite. Je te ferai payer toutes tes abominations. Je n'aurai pas pour toi un regard de pitié. Je serai sans merci. Je te rétribuerai pour ta conduite. Et de tes abominations, tu resteras coupable et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Versets 3 et 4. Jusqu'alors, Dieu s'était contenu, mais maintenant il va donner libre cours à sa colère. La deuxième strophe de ce discours répète à peu près les mêmes menaces que précédemment et se termine par ces paroles terribles. « Je n'aurai pas pour toi un regard de pitié, je serai sans merci, je te rétribuerai pour ta conduite et de tes abominations tu resteras coupable. Et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, qui vous aurai frappé. » Verset 9. Je continue maintenant avec la troisième strophe. Voici le jour. Oui, elle arrive, la ruine se prépare et le bâton qui va frapper fleurit. L'arrogance s'épanouit, la violence se dresse pour servir de bâton à la méchanceté. Il ne restera rien, ni de ce peuple, de ses foules bruyantes, ni de tout son tumulte, ni de sa gloire. Versets 10 et 11. Le bâton représente les Babyloniens, qui étaient un peuple orgueilleux au summum de sa force. Ils sont envoyés par l'Éternel pour détruire le peuple méchant que sont les Israélites, et il ne restera plus rien d'eux puisqu'ils seront soit massacrés, soit en exil. Je continue. Le temps arrive. Le jour approche que celui qui achète ne se réjouisse pas et que celui qui vend ne se désole pas car la colère plane sur toute cette foule parce que le vendeur ne retrouvera pas ce qu'il avait vendu, même s'il demeurait au nombre des vivants. En effet, la vision concernant cette foule ne sera jamais révoquée. À cause de ses fautes, aucun d'eux ne pourra sauver sa vie. Versets 12 et 13. Le commerce n'aura plus de sens, puisque les Babyloniens vont tout prendre ou tout détruire. Ceux qui sont forcés de vendre leur héritage et ceux qui ont les moyens de l'acheter seront mis sur le même plan d'égalité. La guerre nivelle les classes sociales et la mort est la grande égalisatrice. Comme un rouleau compresseur, elle réduit tous les êtres humains en poussière.